Bonjour, bienvenue sur la radio Phil FM et Georges et moi ici présents allons vous présenter une interview sur la science dont les invités ici présents sont
Olivier Morand, directeur de Centre Sciences,
David Armellini, doctorant en aménagement à Tours, à l'université de Tours.
On va commencer par vous, si vous êtes d'accord.
Donc, je suis Monsieur Morand. Je suis le directeur d'une structure qui est à Orléans, qui s'appelle Centre Sciences. C'est une association qui travaille depuis plusieurs années sur ce que l'on appelle la culture scientifique. C'est-à-dire que l'on travaille essentiellement à proximité des organismes de recherche et du monde enseignant, par exemple, pour diffuser les sciences auprès du public. Et donc, cette diffusion se fait en collaboration avec aussi bien le monde enseignant, le monde culturel, les musées, les associations, de façon à pouvoir organiser des événements, des expositions, des conférences, des visites de laboratoire autour des sciences. Voilà. Et un des projets, un des thèmes aussi, c'est de travailler sur la formation auprès des étudiants sur la culture scientifique. D'où la présence de David à côté de moi pour parler auprès des élèves.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours, comment vous êtes arrivé là ?
Alors, moi-même, j'ai fait des études en géologie. J'ai fait parallèlement, je m'intéressais beaucoup à l'animation. Donc, j'ai fait de l'animation dans un grand musée de sciences qu'on appelle la Cité des Sciences il y a plus de 25 ans maintenant, presque 30 ans, à Paris. Avant de revenir sur la ville d'Orléans pour travailler comme médiateur scientifique. Alors, il existe des médiateurs culturels qui travaillent dans les musées pour pouvoir transmettre des informations culturelles. Par exemple, ce que vous pouvez trouver dans des musées comme le Louvre, il y a des médiateurs culturels. Il existe aussi dans notre réseau des médiateurs scientifiques, donc souvent des animateurs un peu spécialisés qui mettent en place des projets autour des sciences. Et puis, progressivement, suite au départ de l'ancien directeur, j'ai pris la direction.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu une semaine de votre vie, comment ça se passe, si c'est chargé ou pas ?
Alors, c'est très chargé. En plus, quand on est directeur, on a des charges un peu administratives, comptables, de gestion de personnel, mais également beaucoup d'activités pour créer des outils d'exposition. On travaille sur des sujets autour de sciences diverses. C'est bien l'informatique, de la biologie, de l'environnement, des expositions sur les mathématiques, sur les énergies. Donc on travaille sur ce type de sujet. Et puis on travaille aussi sur la mise en place de projets. Et on coordonne notamment une grosse opération qui vient du ministère de la Recherche, qui s'appelle la Fête de la Science. Donc on est en contact avec beaucoup d'organismes de recherche, beaucoup d'acteurs qui veulent mettre en place une opération pendant une journée, deux jours, une soirée autour des sciences. Donc il faut mettre en place un programme. Et inscrire tout ça sur un site web, être en contact avec les acteurs, voir s'ils ont besoin d'informations particulières. Donc ça fait partie de notre travail.
D'accord. Est-ce que ce métier, c'est fatigant ou...
Ah non, c'est plutôt enrichissant. Alors c'est comme tout métier, il peut y avoir une part de fatigue, hein, mais ça c'est normal, à la limite comme un étudiant ou un élève qui travaille plus de 8 heures par jour. Mais c'est plutôt enrichissant parce qu'on touche à beaucoup de disciplines. On rencontre, comme aujourd'hui, aussi bien des enseignants que des élèves. Demain, on va rencontrer, on va aller dans un musée, on va rencontrer un directeur culturel et puis on va travailler sur un projet. Après-demain, on va travailler avec un biologiste et puis un autre jour avec un physicien. Donc, par contre, c'est très enrichissant parce que c'est très diversifié.
D'accord. Est-ce que ça vous arrive de parler des sujets sportifs, par exemple ?
Alors à travers, il y a quelques années, on a fait une exposition qui s'appelle « Science et sport » justement, où on abordait comment la science s'intéresse au milieu sportif pour notamment les performances, mais aussi les aspects médicaux ou les aspects techniques, comment les matériaux nouveaux interviennent dans le domaine sportif. Par exemple.
Bon, bah, je veux passer la parole à mon collègue Aurélien.
Bon, nous allons passer du coup pour interviewer le doctorant. La question classique, quel est votre parcours professionnel, vous aussi ?
Alors, mon parcours professionnel, il est assez varié parce que j'ai commencé, en fait, quand j'étais jeune, j'étais passionné par l'histoire, passionné par les langues. J'apprenais l'anglais, le japonais, l'allemand, l'italien. Et mon rêve, mon premier rêve, c'était de devenir guide conférencier, de partir et de travailler dans des châteaux, dans des abbayes, dans plein de lieux différents, et dans toute la France. Donc j'ai fait des études en fait en tourisme pour valider un BTS et ensuite valider ma carte de guide conférencier, ce qui m'a permis de travailler, donc de partir dans une vie très active, très liée en fait à mes centres d'activité, enfin de passion aussi. Et par la suite, eh bien très rapidement, j'ai eu envie en fait de reprendre les études, me dire voilà, là je trouve en fait énormément de plaisir, mais j'ai envie d'aller plus loin dans les structures dans lesquelles je travaillais, où je travaillais en lien avec des conservateurs par exemple, du patrimoine, avec des thématiques assez pointues qui m'intéressaient vraiment. Et beaucoup de professionnels au fur et à mesure m'ont dit mais reprends tes études, continue, valide certains diplômes. Donc en fait, tout en travaillant, eh bien j'ai repris mes études en histoire, donc j'ai validé une licence et après ça m'a vraiment beaucoup plu, donc j'ai continué sur un master. Et à la suite de ce master, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément aussi de thématiques qui m'intéressaient en géographie pour tout ce qui concernait l'aménagement du territoire en lien avec le patrimoine. Et donc, je suis parti sur cette piste-là de l'aménagement du territoire avec un autre master. Et très rapidement, en fait, il était devenu évident pour moi de continuer sur un doctorat qui croise ces deux thématiques et qui traite des habitats et notamment des difficultés de faire des chantiers dans certains types d'habitats qui se trouvent dans des secteurs historiques.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que vous avez fait des études et puis ensuite vous êtes arrêté et puis il y a des gens qui vous ont poussé à continuer.
Et j'ai, alors c'est parce que j'ai trouvé beaucoup de nouveaux centres d'intérêt et donc tout en travaillant, eh bien, j'ai repris mes études. Et donc je suis doctorant aujourd'hui à l'université et je travaille aussi à temps plein à côté.
Ça me semble ça assez être un bon parcours hein, quand même. Enfin, moi, je pense pas que je ferais comme ça, mais enfin, ça doit être quand même très intellectuel parce que moi, perso, je pense pas que j'y arriverais.
Moi, je me disais la même chose que toi à ton âge. Et après, c'est pas du tout. Justement, il n'y a pas de parcours type. Hein, c'est pas parce que on n'a pas fait une filière scientifique qu'on peut pas rebondir après sur une autre filière. Ça, c'est important de le garder à l'esprit que il y a des études. Il y a surtout de l'intérêt et du cœur en fait à mettre dans son travail. Mais après, on peut faire un travail et se dire bah tiens, j'aimerais aller plus loin ou faire totalement autre chose et rebondir. Et tout ce qu'on peut acquérir après, ça sert de toute façon pour la suite. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas une voie, il faut surtout se dire ça, il n'y a pas qu'une voie directement tracée. On a le droit des fois, et ce n'est pas des erreurs, on peut se dire, tiens, ça m'apportera ça et je continuerai sur autre chose après.
Mm-hmm. C'est un peu l'intérêt des interventions d'aujourd'hui dans le collège ou de ce matin dans le lycée, c'est d'amener des étudiants tels que les doctorants qui font de la recherche à expliquer d'abord ce que c'est que leur travail, mais aussi à expliquer leur parcours, comment ils en sont arrivés là, et montrer aussi bien à vous, pour aller dans le lycée, des pistes d'orientation, des idées de ce que c'est que les études supérieures. C'est une sorte de découverte, de présentation à travers différentes thématiques. Donc David en est un exemple sur ce domaine du patrimoine, mais il y a comme ça des doctorants qui montrent qu'ils ont un parcours très diversifié. David s'est beaucoup investi dans le milieu associatif en parallèle de ses études et ça lui a permis aussi de développer son travail.
D'autres compétences. Tout à l'heure, Olivier parlait des musées. J'ai travaillé comme animateur pédagogique dans des musées. On est en contact avec des enfants, on est en contact avec des projets aussi scientifiques. C'est super intéressant.
Mais après avoir étudié un peu votre parcours professionnel, pourriez-vous nous dire c'est quoi votre sujet de thèse ? Parce que c'est un peu compliqué, si j'ai bien compris.
C'est justement pour ça que c'est très très intéressant d'avoir travaillé ces derniers jours avec Centre Sciences. C'est essayer de rendre les choses un peu moins compliquées. Moi, je travaille sur des secteurs en aménagement du territoire dans les villes qu'on appelle les secteurs sauvegardés. Ce sont des secteurs qui existent depuis la loi Malraux, qui, par exemple, il y a un secteur dans le Vieux-Tours. Et dans ces secteurs, on ne peut pas faire un chantier, certains types de travaux, comme on peut les faire, par exemple, ici ou en dehors de la ville de Tours. Il y a des règles en plus à respecter, il y a de nombreuses contraintes quand on veut monter un chantier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger, en fait, ce montage de chantier, donc le chantier pour restaurer, pour rénover une maison, on appelle différents métiers. Quand on est dans le secteur sauvegardé, bah, ça peut être une bâtisse assez ancienne. Et donc, on va demander à des métiers comme le couvreur, le maçon, le plâtrier ou d'autres d'intervenir avec des savoir-faire particuliers. Des fois, toutes mes hypothèses et mon travail de recherche portent autour des contraintes que ça demande pour un foyer de faire intervenir énormément de personnes différentes, de monter ce chantier-là et surtout le coût, financement en fait, de ce chantier qui peut coûter plus cher que dans d'autres situations en dehors en fait, de ce secteur sauvegardé. Donc voilà, moi je m'intéresse en fait, vraiment au montage de ce chantier et dire voilà, là il y a des choses qui sont un peu compliquées, peut-être un peu difficiles pour certaines familles à cause de certaines lois, à cause de certaines réglementations, et donc essayer de les questionner, de voir en fait comment aussi montrer comment les choses pourraient être faites autrement dans d'autres villes et dans d'autres pays.
Oui. Donc là, pendant 3 ans, vous allez faire un sujet de thèse, donc un là-dessus. Grand exposé dessus.
C'est ça.
Et vous avez normalement chaque doctorant un tuteur.
Oui.
Et vous en avez un du coup.
Oui, 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 j'en ai même 2, parce que j'ai aussi quelqu'un qui assure un co-tutorat, qui me suit et qui m'aide beaucoup dans toutes les pistes et les recherches.
Enfin, c'est pas un peu dur au bout d'un moment, parce qu'en un an, ça fait longtemps quand
même. Oui, c'est vrai que même si c'est passionnant et qu'on a aussi beaucoup de plaisir à pouvoir décortiquer son sujet et voilà, mener ses enquêtes, c'est vrai qu'aussi on rencontre des difficultés. Ça peut être un travail assez dur, assez fatigant, mais ça fait partie aussi de la recherche. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de remises en question. Des fois, on rencontre des problèmes, comment les résoudre. Donc oui, il y a un aspect difficile. Mais il y a aussi un aspect vraiment plaisir, rencontre, des moments comme aujourd'hui où on rencontre aussi des jeunes, des étudiants.
Enfin, avec une thèse comme celle-là, j'imagine on peut pas avoir un emploi du temps comme le nôtre, par exemple. Et bah, sur chaque semaine, ça peut être différent. Ce qu'on
oui.
fait.
Oui, ça peut être différent parce que par rapport au collège où on a des cours du début à la fin de la journée, alors nous on a des cours, mais c'est pas forcément de 8h à 17h. Il peut y avoir des cours le lundi, le mardi, il peut y avoir des séminaires mercredi, jeudi, vendredi, et le début de la semaine sera assez libre. Et après, c'est à nous de nous donner en fait un cadre et de se dire bon, bah, moi pour mes recherches, j'ai besoin d'aller questionner telle association, j'ai besoin d'aller travailler sur tel chiffre. Donc ça sera lundi, ça sera mardi, des fois ça sera le soir parce que la journée je vais travailler, mais il faut, c'est nous qui faisons notre agenda.
Ils ont un sujet à faire. C'est encore des étudiants, mais ils sont quand même, je dirais, dans le monde de la recherche, ils ont leur projet, ils sont en partie rémunérés pour ce travail.
Ouais, parce que là, du coup, en plus, vous travaillez en parallèle, du coup.
Oui.
Et vous faites... Vous avez gardé votre travail d'avant recommencer vos études ou vous avez changé ?
Alors j'ai changé plusieurs fois tout en faisant mes études. Et donc je travaille là aujourd'hui dans un domaine qui est lié à l'international en fait, avec des projets de jeunes, des projets européens. Donc ça incite à avoir un planning bien défini parce que bon, la journée se termine, après il faut travailler, le week-end aussi.
Par exemple, ça peut vous arriver de faire des nuits blanches où vous n'arrêtez pas de travailler sur votre projet ?
C'est arrivé, j'ai un peu ralenti ces derniers temps les nuits blanches parce que après, ça peut être aussi...
Oui, c'est pas très simple. Quand même.
Voilà, ça peut être problématique parce que moins on dort et même si on travaille énormément, on n'est pas forcément efficace.
C'est quand même très approfondi. Vous pensez que vous allez avoir le temps de tout faire ?
Il paraît que de toute façon, on n'a jamais terminé en fait avec la recherche. Et donc forcément, on aura toujours envie de continuer, on aura toujours envie de dire « Ah bah tiens, ce côté-là, je ne l'ai pas approfondi, au final, je n'ai pas terminé. » Donc tout le monde dit, au bout d'un moment, il faut s'arrêter et rendre son travail, le présenter. Après, c'est vrai que des fois, le temps peut manquer. Et ça peut arriver aussi que des doctorants qui travaillent notamment ou qui peuvent aussi rallonger d'un an pour rédiger. Et des fois, il peut y avoir aussi exceptionnellement 4 ans.
On nous a dit en cours que la thèse pouvait être rallongée jusqu'à 5 ans.
C'est ça.
Du coup, à la fin des 3 ans, vous avez un examen, une sorte d'exposé à faire à des professionnels.
Au pair, au professeur de l'université. C'est une présentation en fait, qui est ouverte au public, où des spécialistes aussi peuvent venir de toute la France en fonction de la thématique. Et là, le doctorant rend son travail. Mm-hmm. l'expose et après va discuter avec le jury qui est composé de spécialistes et qui vont revenir sur certaines parties et qui vont pouvoir le questionner.
Oui, parce qu'on nous a dit que le jury serait vraiment des spécialistes. Donc, oui. Du coup, ça se pourrait qu'il y en ait qui viennent d'autres pays. Est-ce que vous avez une idée des gens qui pourraient y avoir au jury ?
On peut imaginer, bah, en fonction de sa thématique, oui, on peut voir certaines personnes.
Oui, parce qu'on nous a dit aussi que vu qu'ils pouvaient venir d'un autre pays, enfin, je pense que ça ne vous posera pas vraiment de problème, mais du coup, il faudrait faire la thèse en anglais.
Il y a même des étudiants sur Tours qui vont rédiger leur thèse en anglais. Et il y a énormément d'étudiants qui viennent d'autres pays, qui maîtrisent parfaitement l'anglais, qui maîtrisent bien le français, qui arrivent à échanger, mais qui vont rédiger en fait directement en anglais leurs travaux.
L'anglais est indispensable pour, oui. pour les chercheurs, les oui. scientifiques. Pour échanger dans le monde entier, il n'y a qu'une langue internationale, il y a l'anglais, et
c'est ça.
Ça c'est en termes scientifiques.
Donc vous pensez qu'après avoir fini, que si vous avez eu votre doctorat, est-ce que vous pensez que vous allez trouver un travail dans ce domaine-là et continuer de la recherche ou faire totalement autre chose ?
Tout est possible. À ce stade-là, il ne faut pas avoir d'idée totalement définie. C'est vrai qu'un doctorant peut devenir après post-doctorant, donc continuer un peu la recherche, mais préparer son insertion professionnelle. Il y a aussi d'autres doctorants qui savent très bien que, eux, c'est l'enseignement qu'ils veulent faire. Ils veulent devenir maître de conférence, enseignant-chercheur. Donc, ils vont directement aller vers ces voies-là. Et après, il y a aussi beaucoup de doctorants qui partent dans le monde de l'entreprise, parce qu'on fait un doctorat, on peut avoir un sujet très très précis, mais en fait ce sujet qui est développé, il y a aussi énormément de méthodes. On apprend à gérer énormément de volumes de calculs, on apprend à hiérarchiser les choses, on apprend énormément de choses qui peuvent servir après dans d'autres sujets.
Une fois qu'on a un doctorat, ça doit faire un peu difficile de changer, enfin de moins travailler et tout, de faire beaucoup moins de recherches vu que maintenant on a plus vraiment de temps, hein. Enfin on a plus de temps à partir avant d'avoir fini.
Effectivement, mais il y a aussi beaucoup de doctorants, comme il le disait, David, qui font un post-doctorat, donc qui continuent un peu leur travail de thèse ou sur un autre sujet pour rester en quelque sorte dans le monde de la recherche. Et puis après, se pose toujours le problème, c'est que, comme il le disait, on peut s'orienter vers le monde de l'entreprise. Et puis il y a aussi dans les organismes de recherche, il y a des concours qui sont ouverts pour postuler à des postes dans des laboratoires, pour pouvoir intégrer des laboratoires de recherche. Mais il y a aussi, si on veut intégrer le domaine du privé, c'est aussi possible. Il y a des chercheurs en chimie ou des doctorants en chimie qui intègrent des entreprises sur la chimie. Il y a des laboratoires de recherche privés qui travaillent aussi bien dans l'énergétique, dans la chimie, dans les matériaux.
Donc, si j'ai bien cru comprendre, le sujet de votre présence ici, c'est plus parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui vont dans les secteurs, par exemple scientifiques, qui ont où il faut faire des doctorats et tout. Mais est-ce que vous avez une idée de la raison de pourquoi il y a de moins en moins de gens ?
Il y a effectivement de moins en moins de jeunes qui s'orientent vers les filières scientifiques. Parfois, il est plus facile d'aller s'orienter vers d'autres secteurs d'activité que le monde scientifique. Mais l'intérêt du monde scientifique, c'est une certaine parfois autonomie de travail, de liberté de travail, même si on est contraint dans des programmes de recherche. Il y a une certaine liberté aussi qu'ont les scientifiques lorsqu'ils sont dans un milieu, dans un organisme ou dans une université. Et on essaye, nous, à travers la culture scientifique, justement, de sensibiliser le public, bien sûr. Ça, c'est un autre aspect, mais aussi les jeunes, sur ce que c'est que ce monde scientifique. Ne pas imaginer qu'un scientifique, c'est un monsieur avec une blouse blanche ou derrière une paillasse en train de mélanger toujours des produits chimiques. Ça, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. Maintenant, il y a des scientifiques partout sur le terrain, mais aussi dans des domaines d'histoire, des langues, informatique, biologie, oui, maths, mais dans beaucoup de disciplines, il y a des scientifiques. Puis on peut faire de la recherche sans forcément être enseignant-chercheur. On peut être chercheur, on peut intégrer des laboratoires de recherche en étant technicien, ingénieur, même faire du secrétariat. Hein. Dans un monde de recherche, il y a un gros pourcentage aussi de personnel administratif autour du monde de la recherche qui contribue au monde de la recherche. s'intéresser aux sciences ne veut pas forcément dire qu'on va être chercheur.
Enfin, c'est un peu inquiétant pour l'avenir s'il y a, vu qu'il y a de moins en moins de scientifiques, ça, enfin, parce qu'il en faut quand même dans un monde dans lequel on vit.
Une société a besoin de recherche pour avancer, pour son économie aussi. Investir, quand on investit dans des scientifiques, il y a des retombées. Alors les retombées ne sont pas souvent immédiates. Il y a ce qu'on appelle le domaine de la recherche fondamentale, il y a le domaine de la recherche plus appliquée. Alors évidemment, quand on est dans un domaine de recherche plus appliquée, il peut y avoir des retombées industrielles plus rapides, mais il y a le domaine de la recherche fondamentale, c'est la connaissance pour la connaissance, mais souvent, au bout de dizaines d'années, eh bien, cette connaissance va finir par aboutir sur des travaux peut-être plus appliqués.
Oui, parce que quand même, pour s'engager dans un parcours comme celui-ci, faut vraiment être engagé dans ce que l'on fait, parce que si on le fait et puis qu'on n'est pas vraiment chaud, et puis ça pourrait poser problème.
Oui, mais je dirais que c'est la même chose dans tout travail. Si on s'engage bien dans son travail, en général, c'est passionnant. Mais effectivement, un scientifique qui ne serait pas passionné n'avancerait pas. Donc il y a besoin d'un certain engagement. Mais ça, je dirais que c'est valable dans tous les domaines.
Par exemple, si vous choisissez un sujet, vous passez 6 mois sur le sujet, est-ce qu'après vous pouvez changer de sujet ou arrêter le sujet ?
Il est possible, en effet, de formuler une hypothèse ou de partir en fait sur une thématique. Dans sa recherche, en fait, de se rendre compte, peut-être qu'il faudrait que je réoriente mon sujet ou je le change un petit peu. Et ça, c'est possible. Après, il faut voir justement avec son directeur de thèse, il faut voir avec l'administration, ce qu'on appelle l'école doctorale, un peu l'administration qui suit les doctorants et qui les accompagne du début à la fin de leur recherche, pour régler ces détails-là. Parce que quand on a une idée, en fait, quand on décide d'un sujet, il est déposé. On l'écrit, on a telle hypothèse, telle direction, et c'est un peu comme si on le figeait dans le marbre le temps de sa recherche, pour aussi éviter qu'on se retrouve sur une thématique à 36 à faire exactement la même chose. Donc il y a quand même un historique qui se crée. Mais après, on peut changer cette chose-là, et heureusement d'ailleurs, parce que des fois, on peut en effet avoir une idée qui semble très pertinente, même les directeurs, tout le monde dit « Ah oui, super, vas-y !» Et en fait, finalement, non, il n'y a pas de réalité, où il n'y a pas vraiment de quoi faire une recherche derrière.
D'accord. Est-ce que des fois, ça vous arrive pendant le sujet de partir à l'étranger pour continuer votre sujet ou...
Oui, c'est vrai que quand en plus ça m'arrive souvent d'aller à l'étranger, forcément le sujet est un peu omniprésent et je regarde comment ça se passe, par exemple en Italie, comment sont montés en fait les chantiers dans certains secteurs patrimoniaux, ou voir aussi en Roumanie comment ça se monte, de voir un peu les différences, parce que justement nul n'est prophète en son pays. C'est vrai qu'on est en France un pays reconnu pour son patrimoine, mais c'est pas pour ça qu'il y a de très bonnes idées qui se développent dans d'autres pays qui ne connaissent pas les mêmes contraintes au niveau de la loi, et justement qu'on pourrait s'en inspirer et dire, ah ben voilà, nous on a tellement de contraintes, mais eux ils font comme ça, et ça serait pas mal. Et ça peut aussi faire avancer la recherche, et surtout faire avancer les pratiques sur le terrain chez nous.
D'accord. Est-ce qu'un doctorat a des vacances ?
Ça dépend, c'est oui, mais il faut en prendre des vacances, parce que voilà, on n'est pas des machines.
Admettons que vous passez votre thèse devant un jury,
oui,
et vous ratez, je vous le souhaite pas, mais
oui.
Si par exemple si vous ratez et vous sortez du jury, est-ce que vous voulez le faire encore ou de complètement arrêter?
D'accord. C'est vrai que on peut faire des examens pendant sa scolarité, et pendant l'oral, on va nous dire ça va pas du tout. Là, quand même, la thèse, c'est un travail où on est accompagné et où, avant de soutenir, on montre en fait ce qu'on va présenter, on montre les résultats des recherches. Heureusement, avant, il y a quand même des professionnels, des directeurs qui vont dire « Oulala, tu n'es pas encore prêt pour présenter, parce qu'il manque ça, il manque ça, donc tu ne pourras pas passer. » Généralement, on ne va pas présenter quelqu'un qui ne pourra pas aller jusqu'au bout de sa démonstration et obtenir son doctorat. Ça se passe en fait dans un aller-retour et une discussion avec les différents membres du jury, avec son directeur.
C'est exceptionnellement rare qu'une thèse soit refusée. Mmh. En général, c'est l'aboutissement d'un travail, et le travail est suivi. Souvent, quand le travail est bien suivi et qu'il y a eu un résultat derrière, la thèse est souvent acquise.
D'accord. Est-ce qu'un doctorat peut présenter sa thèse dans un autre pays ?
Il y a des doctorants qui sont en co-direction avec des pays à l'étranger. Après, je ne sais pas exactement comment se passe la présentation, s'ils doivent le faire dans les deux pays ou pas.
Là, je dois dire, il faudrait poser la question à l'école doctorale de l'université de Tours, par exemple. Eux pourraient vous donner, effectivement, ou alors un vice-président qui s'occupe de tout ce qui est enseignement supérieur et recherche à l'université.
Je voulais vous demander aussi s'il y a des sites ou des livres qu'on pourrait voir sur vos sujets ou des choses comme ça.
Il y a des bases de données qui existent, qui référencient en fait les thèses. Par exemple, une thèse, une fois qu'elle est soutenue depuis plusieurs années maintenant, généralement on peut la retrouver en format numérique sur Internet et on peut la consulter. Après, pendant la thèse et même après, il est fortement conseillé de rédiger des articles, d'être publié dans des journaux spécifiques, scientifiques, mais aussi ça peut être aussi des journaux de vulgarisation pour expliquer vraiment en quoi consiste le travail, notre travail, et qu'est-ce qui est nouveau, ou voilà, quel est vraiment l'intérêt. Donc avec tout ça, il est possible de retrouver sur Internet, en effet, en ayant le nom d'un enseignant, d'un chercheur en particulier, ou sur une thématique, de retrouver les écrits sur différents sites.
Alors dans le domaine de la culture scientifique, je dirais qu'il n'y a pas d'ouvrage spécifique. Beaucoup d'ouvrages touchent au domaine de la culture scientifique. Faire de la culture scientifique, c'est une démarche. Donc je dirais que quand on regarde aussi bien certains documentaires, certaines émissions comme, bien connu, C'est pas sorcier ou On n'est pas que des cobayes, qui sont des émissions de télé qui procèdent à cette démarche de culture scientifique. Mais après, il y a des revues spécialisées dans le domaine de la culture scientifique. Dès qu'on touche au domaine des revues de diffusion, de vulgarisation, on fait de la culture scientifique, on fait de la démarche de vulgarisation. Donc c'est plus un état d'esprit, faire de la culture scientifique. C'est rendre accessible dans les connaissances générales, culturelles de tout un chacun, les sciences au même titre que la musique, pourquoi pas le cinéma, la peinture. Ça fait partie du domaine des connaissances. Et avoir une bonne connaissance généraliste dans le domaine des sciences permet aussi à tout un chacun, aux citoyens, d'avoir une meilleure prise en compte des problématiques de recherche, des problématiques que l'on peut rencontrer aussi bien sur les aspects environnementaux que sur les aspects éthiques. Et c'est pour pouvoir avoir après une sorte de jugement, de compréhension, et ne pas être complètement, totalement désarmé devant un sujet. Voilà. Et donc, avoir une culture générale en science fait partie aussi de la culture générale que tout un chacun. Et donc c'est ce qu'on essaye de distiller à travers des actions comme celle-ci, forger, apporter des éléments d'information. C'est plus une démarche, un état d'esprit, faire de la culture scientifique en intégrant les sciences dans le domaine des connaissances générales.
Et un doctorant peut travailler jusqu'à quel âge ?
On peut retrouver même des professeurs qui sont en activité ou même des personnes à la retraite qui décident de faire un doctorat et de retrouver le milieu de la recherche. Et il n'y a pas d'âge en fait pour faire de la recherche.
D'accord.
Il faut avoir envie.
On a même des personnes qui passent leur bac à 60, 70 ans.
Tout à fait.
Donc on peut très bien, si on a un projet, une équipe qui est prête à vous accueillir, on peut passer une thèse très tard parfois. Alors il faut que cette thèse ait un intérêt, bien sûr.
Quand vous dites la culture scientifique, ça peut être vraiment tout. Par exemple,
bien sûr.
Par exemple, qu'on pourrait retrouver tout ce qu'il y a dans toutes les matières, par exemple en français, en musique.
Tout à fait. Puisque je prends par exemple, ne serait-ce qu'hier, il y avait une doctorante qui est intervenue dans un collège et dans un lycée qui faisait de la recherche, mais de la recherche sur la littérature médiévale. Elle étudiait les manuscrits et un certain nombre d'ouvrages du début du XVIIe siècle. Et donc, elle explique. C'est un travail de recherche. Et pourtant, ça touche à un domaine de la littérature. On peut aussi faire de la recherche en linguistique. On peut faire de la recherche dans énormément de domaines. Et ça procède d'une démarche scientifique. Donc, c'est de la culture scientifique. Et ça peut toucher à toutes les disciplines.
Donc, pour cette séance, vous voulez conclure ?
Alors, moi, je commencerai. Et puis après, je vais laisser David conclure, puisque c'est un des intervenants de la journée. Déjà, conclusion, c'est tout d'abord remercier les établissements scolaires, donc également l'établissement, le collège de Philippe de Comines pour cet accueil, parce que quand on dit faire de la culture scientifique, ça procède d'une démarche, et nous, en tant que vulgarisateurs, en tant que médiateurs scientifiques, c'est notre vrai métier, on fait de la médiation, on est à l'interface entre le domaine de la recherche et le domaine du grand public. Ça ne peut fonctionner que s'il y a en face de nous un récepteur, c'est-à-dire des personnes qui acceptent de recevoir cette information, donc le public en général, qu'il soit professionnel, qu'il soit grand public ou qu'il soit scolaire. Donc aujourd'hui, l'intérêt de ce travail, c'est parce que justement, il y a des élèves en face et des enseignants qui sont prêts à recevoir cette information générale. Donc c'est surtout merci aux établissements scolaires, que ce soit aujourd'hui Philippe de Comines, ce matin le lycée Balzac, hier le lycée Paul-Louis Courier et le collège Paul-Valéry, qui sont les quatre établissements qui ont participé à cette opération de diffusion des sciences avec les doctorants de l'Université de Tours. Voilà, donc c'était un peu ma forme de conclusion pour terminer sur cette opération qui sera reconduite l'année prochaine.
Et je rajouterai qu'en tant que doctorant, j'étais vraiment très heureux de pouvoir aller à votre rencontre, rencontrer des collégiens, rencontrer des lycéens ce matin, tout simplement parce que quand j'étais à votre place, moi je me disais que de toute façon c'était pas possible, je pourrais pas en fait faire des études longues, et d'ailleurs très rapidement on m'a incité, même dans ma famille, il faut faire des études courtes et travailler, et en fait je trouve que c'est très important de créer ces passerelles là, ces espaces où on peut se rencontrer et dire non mais pour n'importe qui c'est possible, avoir des profs qui encouragent, mais aussi des personnes à l'extérieur. Et voilà, pour conclure, justement, dire que rien n'est définitif et qu'il est possible, quand on est passionné, quand il y a quelque chose qui nous intéresse, de pouvoir poursuivre ce chemin et d'aller pour faire des études longues et assouvir un peu un rêve, en tout cas une passion.
D'accord, Aurélien et moi, on vous souhaite bon week-end et on vous attend l'année prochaine.
Ouais, surtout bonne chance pour votre thèse.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Si t'as un problème, écoute Phil FM, ça passe crème.